France 24 présente
Mardi politique.
C'est l'heure de Mardi politique sur France 24 et RFI. Bonsoir Frédéric Rivière.
Bonsoir Rosine, bonsoir à tous.
Et ensemble nous recevons Henri Guaignot, ancien conseiller spécial de Nicolas Sarkozy. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je cite votre dernier livre, De Gaulle, le nom de tout ce qui manque, et c'est aux éditions du Rocher. Alors Emmanuel Macron giflait dans la Drôme cet après-midi, toute la classe politique condamne unanimement. Alors selon vous, faut-il lier cette violence à celles qui existent dans la société, ou bien vous dites, aussi inacceptable soit-elle cette violence, les mouvements d'humeur contre les puissants ont toujours existé?
Alors, les mouvements d'humeur contre les puissants ont toujours existé. Le geste n'en est pas moins totalement inacceptable. Et pas pour des raisons de morale, et pour des raisons profondément anthropologiques. Enfin, ce sont des... Ce sont des raisons symboliques. Le problème n'est pas de savoir ce qui est arrivé à M. Emmanuel Macron. Le problème est de savoir quelle atteinte a été portée à l'autorité de l'État, à celui qui incarne la souveraineté nationale, aux institutions et en réalité à l'ordre social. Et cette atteinte, elle est terrible. Voilà. Et elle a toujours été considérée comme terrible dans tout le cours de l'histoire.
Mais c'est pas une forme de morale républicaine, tout de même, à laquelle on peut se référer.
Sous les rois, c'était la même chose.
Ouais.
C'est l'incarnation de la souveraineté, elle est sacrée. Ou alors la souveraineté n'est plus sacrée. Ou alors l'ordre social n'est plus sacré. Donc s'il est plus sacré, il est plus fondé. C'est-à-dire que, qu'est-ce que veut dire le geste d'aujourd'hui ? Il n'y a plus de limite. Il n'y a plus de limite. Comment vous voulez vous émouvoir que un jeune voyou balance coup de barre de fer à un policier ou lui jette un cocktail Molotov à la figure, puisque gifler le président de la République, finalement, c'est un délit comme un autre. Ben non, c'est pas un délit comme un autre. C'est pas... Et d'ailleurs, ça pose des questions sur notre code pénal. Hein, c'est quelque chose d'extrêmement grave pour toute la société. Voilà. Le message que ça envoie à toute la société, c'est qu'il n'y a plus de limite, qu'il n'y a plus rien de sacré dans la société.
Oui, mais
s'il n'y a plus rien de sacré, il n'y a plus de société.
Voilà. Oui, mais c'est pour ça que je vous posais cette première question au début, parce que lorsqu'on regarde les chaînes d'info, quand on écoute les journalistes ou les observateurs, on dit « Ah, la violence de la société ». Mais est-ce qu'il faut distinguer cette violence contre un président de la République de la société qui vit une violence extrême en ce moment? Et vous le disiez, contre les policiers, mais même contre tout le monde, contre des gens qui ne sont pas connus, contre les féminicides, contre les ce que certains ont appelé l'ensauvagement, en quelque sorte.
Il y a une montée de la sauvagerie. Mais cette montée de la sauvagerie, elle a le champ libre, et de plus en plus libre, au fur et à mesure que tous les tabous tombent, que toutes les limites sont franchies. C'est-à-dire que il y a toujours eu de la violence dans la société, mais à partir du moment où la violence contre les détenteurs de l'autorité, les policiers, les gendarmes, devient banale, bon, c'est une violence comme une autre, et puis, à partir de ce moment-là, vous ouvrez grand les portes à l'ensauvagement. Si après vous laissez frapper, insulter, bousculer, voire blesser les maires, vous franchissez un pas de
donc
plus.
Donc c'est un franchissement.
Mais là c'est un franchissement, mais c'est le franchissement ultime. C'est le franchissement ultime. Il y a plus rien au-delà.
Il y a deux ans, l'historienne Mona Ozouf parlait de notre époque en disant ceci: la résurgence d'un langage de vulgarité et de trivialité rappelle la Révolution française dans son côté excessif et outrancier, mais nous rappelle aussi des choses inquiétantes. L'ensauvagement du langage annonce, prépare et fabrique l'ensauvagement des actes. Est-ce que c'est ce à quoi nous sommes en train d'assister?
Oui, je pense qu'elle a parfaitement raison. Parfaitement raison. C'est ce à quoi nous sommes en train d'assister, c'est-à-dire à une société, c'est pas propre à la France, hein, c'est le cas de tout l'Occident. À une société qui est en train de se désintégrer. À une civilisation qui est le fondement dans lequel s'enracine sur lequel repose la société, qui est en train de se désintégrer aussi. Un imaginaire collectif qui est en train de voler en éclats. Ouais. Et donc, si tout ça vole en éclats, on ne peut plus vivre ensemble, enfin, on ne peut plus vivre pacifiquement ensemble.
Et est-ce qu'il y a une symbolique particulière pour vous dans ce geste qui est une gifle ou un soufflet, peut-être, d'ailleurs, plus qu'une gifle ?
Ça n'a aucune importance, savoir si c'est un soufflet ou une gifle. Hein.
Symboliquement, peut-être, c'est encore une nuance.
Non, mais... c'est une agression physique.
Non, mais ce que je voulais vous demander, voilà, mais est-ce qu'il y a, dans le geste de la gifle ou du soufflet, une volonté particulière d'humiliation, au fond, qui n'est pas la même que si c'était un coup porté avec un objet ou avec le poing. Vous voyez ce que je veux dire ? Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier dans ce geste-là ?
Sans doute, parce que celui qui le fait, c'est aussi que ce geste, il va être disséqué, observé, analysé, donc...
Oui, mais l'entartage, par exemple, on a vu beaucoup d'hommes politiques se faire entarter...
Mais là, on n'entarte pas les présidents de la République.
Non, mais de nombreux ministres se sont fait entarter.
Voilà, là encore, on avait déjà giflé M. Valls. C'était déjà, on avait franchi une limite.
Il était candidat à la primaire socialiste.
Et maintenant, il était Premier ministre. Ouais. T'es Premier ministre. Ouais. Bon, maintenant, c'est le président de la République. On n'entarte pas le président de la République. Bon, alors, et l'entartage a quelque chose d'une plaisanterie, même si elle est de très mauvais goût, même si, bon... Même si c'est une atteinte quand même au prestige de la personne qui reçoit la tarte, mais là on est la gifle, c'est autre chose. La gifle, c'est celle que donnaient jadis les parents à leurs enfants quand les enfants avaient vraiment exagéré.
C'est pour ça que je parle d'une symbolique peut-être particulière. Non, il n'y a pas de volonté de blesser ou d'attenter à l'intégrité physique.
Non, parce qu'effectivement c'est un geste symbolique et puis. C'est difficile, hein, l'intégrité physique. Bah, remarquez, on voit bien là les défaillances du système de sécurité, mais quelqu'un qui prend un objet à la main, ça se voit davantage. Enfin, je sais pas, dans beaucoup de pays au monde, le geste n'est pas encore achevé que la personne qui fait ça est morte. Vous allez aux États-Unis, essayez donc. Vous pouvez tirer sur un président de la République ou un président des États-Unis, ça s'est déjà vu.
On avait lancé, rappelez-vous, on avait lancé une chaussure sur George Bush. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il s'était pris une godasse dans la figure. Alors en 2015, deux ans avant son élection, Emmanuel Macron avait donné une interview au magazine Le 1, peut-être que vous vous en souvenez, dans laquelle il disait qu'il y avait un absent. Dans la vie politique, c'était la figure du roi. Il ajoutait la terreur à creuser un vide émotionnel imaginaire. Le roi n'est plus là et on a construit d'autres figures comme De Gaulle. Voilà ce qu'il disait. Est-ce que Macron, en quelque sorte, dans l'imaginaire des Français, restaure la figure du roi ? Et on sait, dans l'inconscient collectif, comment la figure du roi, en tout cas celle de Louis XVI, a fini.
Alors d'abord, je pense que la figure du roi, elle est essentielle à la France. Elle est essentielle à la France parce que la France s'est construite, a construit son unité sur la figure du roi. Mais la figure du roi...
Les deux corps du roi.
Voilà, c'est les deux corps du roi. C'est la figure de la souveraineté, c'est la figure de l'État, c'est la figure...
Du divin.
De la nation, même quand on ne l'appelait pas ainsi. Donc c'est la figure du peuple tout entier. Bon. Et la France est construite autour de la figure royale. On pourrait dire, si on poussait un peu plus loin l'analyse, que l'Angleterre, qui a gardé une reine ou un roi comme chef de l'État, malgré tout un pays, une société aristocratique. La France est un vieux pays monarchique. Et elle l'est toujours. Elle l'est toujours. Pourquoi ? Parce que le monarque, c'était celui devant lequel les puissants et les plus humbles étaient à égalité. C'est la figure monarchique, en France, elle est une des clés de voûte du système égalitaire français, de cette revendication d'égalité, de ce refus des féodalités, des distinctions de classe, de rang, etc. Même si la monarchie n'est pas arrivée, la monarchie française, jusqu'au bout de son travail d'éradication des rangs et des distinctions. Bon, mais elle l'a entrepris. C'était l'œuvre continue des Capétiens jusqu'à la Révolution française consiste à raser toutes ces différences et à réunir à faire l'unité française. Bon, qui fait d'ailleurs la monarchie française finit dans ce qu'on a appelé la monarchie administrative, hein, le monarchie absolue, mais monarchie administrative, qui donne de plus en plus une place importante à l'appareil d'État, à l'administration, et dans l'appareil d'État et l'administration, d'ailleurs de plus en plus à ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui des hauts fonctionnaires, des gens qui à l'origine ne sont pas nobles. Hein, voilà, ouais. L'exemple type étant Colbert, mais Mazarin, etc. Bon, donc c'est profondément inscrit dans les gènes de la nation française. Ouais.
Alors, d'ailleurs, on parle toujours de monarchie républicaine.
Voilà. Et quand vous remarquez que la Révolution tue son roi. On rappelle que les Anglais l'avaient tué avant nous. Bon. Mais à partir du moment où elle le tue, il faut que la souveraineté se déplace vers une autre incarnation. Mmh. Et donc, la Révolution n'arrive pas à trouver cette incarnation. Elle finit dans une sorte de chaos jusqu'à ce que arrive général Bonaparte, le 18 Brumaire, puis l'empereur, puis tout le 19e siècle quasiment jusqu'au début de la Troisième République, va être une recherche, une quête éperdue de cette figure entre les vieilles dynasties et la légende napoléonienne. Et la République, la question se repose au début de la Troisième République. On finit par choisir la République plutôt que la monarchie de façon presque accidentelle. Et puis, on donne au président de la République dans les textes un vrai pouvoir. Arrive le conflit avec une majorité, le président de la République, MacMahon, qui refuse de céder et qui finit par être obligé de partir. À partir de là, il n'y a plus de figure, mais la figure symbolique demeure dans le président de la République. La preuve, on parlait.
Elle demeure dans les esprits.
On parlait de la GIF, c'est très intéressant. Il y a très peu de cas. Il y a deux assassinats de président de la République en France. Sadi Carnot, Paul Doumer, un dans les années 30, un dans les années, à la fin des années 1890. Et il y a, à ma connaissance, à part la manche tirée de Nicolas Sarkozy, la seule agression physique dans l'histoire de notre République depuis le début de la Troisième République, c'est Émile Loubet, je crois 1899, qui, en pleine affaire Dreyfus, un jour, dans une cérémonie, c'était au champ de course, à Longchamp, je ne sais plus où, une grande pagaille, parce que les anti-Dreyfusards font une manifestation, quelqu'un monte sur la tribune, lui donne un grand coup de canne sur le chapeau. Ouais. C'est très intéressant, un grand coup de canne sur le chapeau. Et moi, considérable, pour le président, enfin, par rapport à cet attentat, mais et moi, parce que c'est un acte symbolique, il n'a pas de pouvoir, il n'a pratiquement pas de pouvoir. Vous savez combien il récolte d'années de prison, le monsieur qui a enfoncé son chapeau d'un gros coup de canne? 10 ans, ferme.
Ouais.
Bon. Voilà. Donc c'est, vous voyez, il y a une quête. Et De Gaulle, ce que fait De Gaulle, c'est qu'il rétablit la figure du monarque républicain, et la Ve République est une synthèse entre la quête de la République et de la démocratie et la nécessité d'avoir une incarnation de la souveraineté et de l'unité française.
Roselyne, vous interrogez,
sur
la question de savoir si finalement Emmanuel Macron voulait d'une certaine manière incarner cette figure royale. Effectivement, d'ailleurs, il a un peu donné cette impression, notamment dans les premiers temps de son quinquennat.
J'ai une petite nuance à apporter quand même.
Vous l'apporterez quand j'aurai fini ma question, si vous voulez bien. mais est-ce que tout de même Emmanuel Macron n'est pas arrivé à l'Élysée à l'issue de deux quinquennats qui auraient un peu débraillé la fonction présidentielle, si vous voyez de quoi je parle, notamment Nicolas Sarkozy, qui... on parlait tout à l'heure de Mona Ozouf qui disait la vulgarité et la trivialité dans le langage prépare aussi après, finalement, une certaine violence dans les actes. Le casse-toi pauvre con au Salon de l'Agriculture, on ne peut pas dire que ça incarnait hautement la fonction présidentielle.
Alors... D'abord, il faut tenir compte d'un premier élément, on parlera d'Emmanuel Macron après, c'est que c'est le quinquennat. Le général de Gaulle avait tenu à ce que le président reprenne le septennat, qui était le mandat du président de la Troisième République, qui avait été d'ailleurs celui de la Deuxième République aussi, 7 ans, pour rester au-dessus des partis, pour ne pas avoir son sort calqué sur celui des députés, et celui des députés sur le sien. Bon, vous savez, c'est la fameuse phrase de ce président de la République, l'essentiel, le long terme, etc. Bon. François Mitterrand a d'ailleurs assez bien géré l'apparition qui devait se produire un jour des cohabitations, et il a la fonction présidentielle, on peut le dire, quel que soit l'estime qu'on porte à François Mitterrand, il a garder à la fonction présidentielle son prestige et son autorité. Donc, arrive ensuite la réforme du quinquennat. Alors, Chirac, c'est un peu différent. C'est le premier, il va inaugurer le quinquennat, mais c'est son deuxième mandat. Il a déjà, il est déjà là depuis 7 ans, il a une autorité. Et après, on entre vraiment dans la mise en œuvre réelle du quinquennat. Et là, le quinquennat, c'est très difficilement compatible avec cette figure du souverain, parce que le quinquennat fait du président de la République le Premier ministre, c'est-à-dire celui qui est là au quotidien, et du Premier ministre, l'adjoint du président de la République. Voilà. Et donc, il peut pas, il est obligé de réunir
de mettre les mains dans le cambouis,
dans le quotidien.
Henri Guaidó, je voudrais, c'est passionnant ce que vous nous dites, mais j'ai envie de vous poser une question sur la droite quand même. Aujourd'hui, vous la qualifieriez, cette droite, de morte, de moribonde, ou vous pensez qu'elle se réveillera, qu'elle se révélera, ou vous dites elle est foutue?
Alors, je compléterai, puisqu'il nous reste 2 minutes, si vous voulez, cette question, avec un projet gaulliste est-il encore possible pour la France?
Et sachant que... Ça fait 2 questions.
Oui, en 1 minute 30 à peu près.
Non, mais il est, à mon sens, indispensable. Parce que ce qui a gouverné, les forces qui ont gouverné ce pays, les forces politiques, qui n'étaient pas à la gauche, ça n'était que très rarement ce qu'on appelle la droite. D'ailleurs, qu'appelle-t-on la droite? C'est une multiplicité de courants qui se sont battus entre eux, combattus, mais violemment. Enfin, je veux dire, entre la droite réactionnaire, légitimiste, monarchiste d'antan, et puis la droite orléaniste, le combat a été sanglant. Et ça demeure. Bon. Donc, il y a un manque dans la vie politique française qui a été incarné longtemps par le bonapartisme puis par le gaullisme et qui a complètement sombré à partir du moment où au RPR une droite orléaniste a commencé à prendre le pouvoir puis à partir du moment où on a créé l'UMP, c'est-à-dire qu'on a mis ensemble les centristes, les radicaux.
On a créé une grande bétaillère, c'est ça?
Et avec... on a créé quelque chose qui n'était plus une famille.
Voilà, c'est ça qui a fait que la droite est morte aujourd'hui,
La gauche, c'est pareil. Enfin, le Parti Socialiste, c'est la même chose. C'est-à-dire que on a des partis qui n'en s'enracinent plus dans des familles. Un parti, c'est fait pour exprimer sur la scène politique la sensibilité d'une famille politique qui s'inscrit profondément dans l'histoire. Il n'y a pas un pays où la sensibilité politique naît comme ça du jour au lendemain. Et quand ça arrive, c'est en général une grande catastrophe et ça dure pas longtemps. Mais ça peut s'appeler le fascisme, le nazisme, etc. Mais sinon, ou le stalinisme. Mais sinon, ça sont des courants très profonds. Ouais. Et bien, ce courant, aujourd'hui, n'a plus d'expression partisane. Voilà.
Voilà, on a terminé. Merci, Henri
Guaidó. Vous étiez parfait dans le timing.
Oui.
Merci beaucoup, Henri Guaidó. Je rappelle le titre de votre livre. C'est aux éditions du Rocher. De Gaulle, le nom de tous ceux qui nous... de tout bon. Ce qui nous manque. Voilà.
Tout à l'heure sur RFI.